fait suite de la série de prédications sur David. Et c'est vrai que le sujet que j'ai, c'est pas que j'ai choisi, c'est qu'on m'a imposé, c'est un sujet assez délicat et difficile même à comprendre, parce qu'il s'agit de l'histoire de Shimei. Ça vous dit quelque chose, Shimei? Non? Dans l'histoire de David, on ne parle pas forcément de cela. En tout cas, les enfants, si ça vous ennuie, mon histoire, vous pouvez aller derrière pour faire des dessins. Donc voilà, vous avez la liberté pour aller derrière. Parce que c'est une histoire quand même assez difficile et dure. Et c'est une histoire qui se passe dans 2 Samuel 16. 2 Samuel 16. Je dirais que c'est le moment le plus sombre du règne de David. Vous savez, pour comprendre déjà le chapitre 16, il faudrait aussi comprendre le contexte. La dernière fois avec Christelle, nous avons vu David dans le péché. Avec ça va, ma voix est bien compréhensible. Oui, parce que j'ai passé une semaine à Paris, j'ai dormi 3 heures par jour. Et les séminaires étaient super intenses, c'est pour ça que j'ai ma voix est complètement prise comme ça. Enfin bref, c'est pas important. Alors, on a vu la dernière fois que la famille, enfin il y a eu un chaos à cause de l'adultère de David avec Bathsheba, et le meurtre de son mari Uri le Hittite a permis que voilà, David soit dans le péché et qu'il a eu une sentence terrible suite à ça. Le prophète Nathan prophétise ainsi, l'épée ne s'éloignera pas, ne s'éloignera jamais de ta maison. Et les chapitres qui suivent sont l'accomplissement de cette prophétie. Et après, on voit un chaos familial. Le foyer de David explose. Le fils aîné, Amnon, viole sa propre demi-sœur Tamar. Et puis David est furieux, mais il ne fait rien, il ne punit pas Amnon. Alors Absalom, qui est le propre frère de Tamar, veut venger. Il attend 2 ans et il assassine son demi-frère Amnon. Et ensuite, il s'enfuit. Il prend sa fuite. Ensuite, voilà, pendant 3 ans, il galère, ce Absalom. Après 3 ans, il revient à Jérusalem. David accepte qu'il revienne à Jérusalem. Mais il ne le rencontre jamais pendant 2 ans. Ce qui fait que pendant 3 et 2 ans, pendant 5 ans, Absalom est mis à part. Laisser abandon. Je pense que c'est ça, c'est pendant cette période que Absalom s'est rebellé contre David. Voilà mon père, il ne fait rien pour punir ma sœur, ma propre sœur qui a été violée par mon demi-frère. Et ensuite, moi je me venge de cette histoire. Et puis, je suis en fuite pendant 5 ans. Et là, il commence à cogiter. Peut-être que je vais prendre son pouvoir. Et ensuite, après 5 ans seulement, qu'il arrive à revoir son père. Mais depuis, à partir de ce moment-là, il commence à préparer son coup d'État. Pendant 4 ans, il se tient à la porte de la ville. Et il intercepte tous ceux qui viennent voir le roi pour un jugement. Et il leur dit, si j'étais juge, je vous rendrais justice. Pendant quatre ans, il rencontre les gens du monde, de son pays. Si j'étais juge, je serais juste avec vous. Je serais de ton côté. Et c'est ainsi que le texte dit qu'il volait le cœur des gens d'Israël. Il prépare déjà le coup d'État. Et ensuite, enfin bref, Absalom était d'une grande beauté apparemment. Un beau garçon. Donc ça captive, avec son charisme, il était aussi captivant. Et ensuite, Absalom se rend à Hébron sous un faux prétexte et il s'y fait proclamer roi. Voilà le coup d'état qui commence. La conspiration devient si forte que David, craignant un massacre à Jérusalem, il se dit, mais entre nous, nous les frères, on ne va pas se battre. Si je veux garder mon pouvoir, si je fais la guerre contre mon propre fils, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Donc je vais éviter ce massacre. Alors il décide de fuir la capitale, à pied, avec ses fidèles serviteurs. Et c'est là où on arrive, chapitre 16. Voilà, vous avez compris le contexte. Il est humilié. Il marche pieds nus, la tête couverte, et en pleurant. Et puis, parmi ses fidèles serviteurs, il y a eu des traîtres. C'est-à-dire, son meilleur conseiller, qui s'appelle Achitophel, est passé dans l'autre camp, auprès de son propre fils. Et puis, entre-temps, il rencontre des opportunistes, etc. Et là, aujourd'hui, nous voyons l'histoire de Shimei. Shimei, c'est qui? Il ne disait rien tant que David avait le pouvoir. Mais maintenant qu'il voit qu'il est dans la faiblesse et qu'il passe par une localité appelée Bashurim, qui est située sur le chemin qui descend de Jérusalem vers Jourdain, et Bashurim est un territoire appartenant à la tribu de Benjamin, le tribu de l'ancien roi Saül. Et donc, il était de la famille de Saül. Il profitait, lorsque Saül était roi, il profitait de sa puissance. Il était privilégié et l'entourage de Saül avait plein de pouvoir dans la royauté. Mais ils étaient un petit peu mis à part maintenant. Alors, il avait un certain, haine contre David. Et au verset 5 de Samuel 16, verset 5, je lis le verset. Le roi David arriva jusqu'à Bashurim, et voici, il en sortait un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Il est précisé que cet homme était de la parenté de Saül. Et pendant 20-30 ans, il était dans une famille effondrée. Il avait vraiment un rancœur envers la lignée de David. Et donc Shimei semble avoir été vraiment, il voulait vraiment exprimer son rancœur, etc. J'aimerais lire verset 6. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, alors que tout le peuple et tous les vaillants hommes étaient à la droite et à la gauche du roi. Même si David est en fuite, il était escorté par des centaines de guerriers. Pour que Shimei ait l'audace de faire ça, il devait probablement se tenir à une distance considérable, peut-être sur une hauteur. Il est dit qu'il jetait des pierres. Et vous savez, pour les Juifs, jeter des pierres, c'est quoi? Lynchage. Ça veut dire que, oui, lui, il mérite la mort, donc je jette la pierre. Il mérite la colère de Dieu. C'est comme s'il était déjà dans la misère, dans la tristesse, par la trahison de son propre fils. Et puis, il y a un gars qui jette encore la pierre pour marquer le coup. Il est encore dans la maladie, il est encore meurtri, David. Et versets 7 et 8, Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, l'homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, et te voilà malheureux comme tu le mérites. il traite David le méchant homme. En hébreu, c'est plutôt un vaurien, une insulte terrible. En disant « va-t'en », voilà, il lui ordonne de quitter la terre promise pour les terres païennes. Shimei a jugé ici que David était totalement fini. Alors, il lance des fausses accusations en disant que « homme de sang ». Mais David ne cogite pas. Pourquoi ? Parce que il se dit « mais homme de sang ». Bah oui, je suis homme de sang. J'ai fait couler du sang innocent. Le mari de Bathsheba, Uri, le Hittite, il doit cogiter, il doit réfléchir, il doit se repentir, c'est vrai. J'ai tué quelqu'un. Et puis, dans mes mains, il y a beaucoup de sang. Homme de sang, c'est vrai. Un vaurien, je ne pense pas, puisqu'il est homme selon le cœur de Dieu. Et vous savez, quand les gens donnent des critiques, il y a toujours un mélange de vérité. Donc, homme de sang, c'est une vérité. Mais après, c'est un mensonge complet. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül. Mais si on réfléchit bien, David n'a jamais tué Saül. Même, il a eu des occasions pour le tuer, mais il n'a jamais fait. Pourquoi ? Parce que pour lui, c'était un oint de Dieu. C'est Dieu qui l'a oint pour mettre en place comme roi. Et il ne voulait pas toucher l'oint de Dieu. Et même ses propres fils, et Saül, il meurt au combat contre les Philistins. Et d'ailleurs, David, quand des gens prétendent d'avoir tué les membres de la famille de Saül, il le fait tuer, il le fait exécuter. Donc on voit vraiment que David n'a pas pris le trône par un bain de sang. Mais ici, Shimei ment. Shimei critique avec un mensonge terrible. Est-ce que ça vous arrive de recevoir autant de critiques par des personnes comme ça dans votre vie? Des fausses accusations, de manière injuste. Il y a une part de vérité, mais il peut y avoir un grand mensonge. J'ai aussi personnellement reçu ce genre de critiques quand j'étais jeune. Et même encore aujourd'hui. Je pense que ça finira jamais, les critiques. Mais je veux dire, je me souviens une fois où on m'a critiqué, mais vraiment avec une fausse accusation, mais mélangée de vérité. Donc les gens sont un petit peu confus par cet propos, parce qu'il y a une part de vérité, donc ça doit être vrai aussi l'autre, n'est-ce pas? On pense comme ça. C'est très subtil, ça devient vraiment très subtil. Et puis, voilà comment les autres qui sont autour de David réagissent-ils. Au verset 9. Pourquoi ce chien mort? Donc, pour Abishai, un des généraux. Pourquoi ce chien mort, maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi passer, je te prie, je lui couperai la tête. C'est violent, mais c'est un général, c'est un soldat. Et alors, voilà quelqu'un qui vous critique et un de votre personnage vous console. Et il est à votre côté. Vous devez être soulagé ou plutôt apprécier une telle loyauté. Mais au lieu de le féliciter, il le réprimande au verset 10 et 9 et 11. « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Seruja ? » S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit « Maudit David, qui donc lui dira « Pourquoi agis-tu ainsi ?» etc. « Laisse-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a ordonné. » David voit cette situation sous un angle spirituel. Il reconnaît que si Shimei peut l'insulter, c'est que Dieu le permet. Il se dit, mon propre fils cherche à me tuer. Est-il surprenant que cet homme de la tribu de Saül profite de l'occasion pour me critiquer? Et David se souvient probablement de la prophétie reçue après son péché avec Bathsheba, que l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Donc à travers l'insulte de Shimei, David voit aussi la main de Dieu qui l'humilie pour le purifier, pour l'amener encore davantage à la repentance. Il est facile de dire c'est la volonté de Dieu quand on réussit, mais là il est beaucoup plus difficile de reconnaître quand on est humilié, déchu. Là, il veut vraiment examiner son propre cœur devant le Seigneur. Comment vous faites quand on vous critique? Quand nous sommes critiqués, au lieu de simplement crier à l'injustice, est-ce que nous demandons s'il y a une part de vérité? Même ne serait-ce que 10% dans ces propos, qui méritent réflexion. Souvent, nous avons commis des erreurs qui n'ont jamais été punies. Et là, j'ai l'impression que David veut accepter l'épreuve présente, cette humiliation, ces critiques, même, je dirais, injustes, avec patience. On appelle ça la résilience un peu, non? Non? Dans la patience. Peut-être, au verset 12, « Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui ?» Il ne veut pas se venger contre cet homme qui prononce des paroles injustes. David, il s'en remet à Dieu. Et ça me rappelle cette parole de Romains 12 qui dit que « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. » C'est la parole de Pierre, Paul. « Mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Je pense que le Seigneur transforme les situations, les circonstances. Et puis, faisons confiance que notre Seigneur est un Dieu de juste. Il est juste. Il est aux côtés de la justice. Sa justice se révélera un jour. Et d'ailleurs, parfois on se dit, mais pourquoi ta justice n'arrive pas maintenant? Le Seigneur dit, sois patient, comme David l'a été. Sois patient malgré l'injustice. Est-ce que nous sommes prêts aussi à subir une certaine injustice et s'humilier davantage comme David? Ou plutôt de crier, je vous avais dit la dernière fois, quand quelqu'un s'est garé chez nous alors que j'avais bien marqué place de parking pour le pasteur, ma colère est montée, j'ai vite écrit plein de « sous le pare-brise ». Après j'ai dû retirer. Parce que j'ai écrit avec ma colère. Est-ce que j'arrive à supporter cette injustice ou pas? C'est une petite injustice, et ma colère est montée. Et là, c'est incomparable ce qu'il est en train de subir. Il est face à la mort. Il est en danger de mort. Et en plus, c'est son propre fils qui est en train de le chasser. Et c'est à ce moment-là que il regarde vers le Seigneur. Dans Psaume 109, 2 à 4, il dit « Ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. » On voit vraiment que c'est à ce moment-là que David a dû écrire pendant la fuite. « Ils m'attaquent sans cause, tandis que je les aime. » Waouh! Il dit, tandis que je les aime, il aime son peuple, il aime ces personnes qui le critiquent, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière et à l'amour de toutes ces personnes qui le critiquent, vis-à-vis de toutes ces personnes qui le critiquent, toutes ces personnes qui le haïssent, et puis il recourt à la prière. « La prière est quelque chose de formidable que Dieu nous a donné. C'est un moyen où on peut avoir un contact direct avec le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que les anges du Seigneur vous entourent comme un bouclier. Et puis, vous êtes protégé contre tous ces poisons des méchants qui veulent vous atteindre. Au verset 14, David et son peuple arrivent enfin à un endroit où ils peuvent se reposer. Enfin, ils sont loin de ce Shimei qui, depuis des heures, le critique, le suit, il les suit en lançant des malédictions. Et enfin, ils sont loin des cris de Shimei. Et c'est à ce moment-là que le texte précise qu'ils reprirent leur souffle. Ce repos est un cadeau. Ils sont dans le désert, et puis voilà, cache des oasis où on peut se ressourcer, restaurer. Voilà, après ces deux jours de fuite pieds nus, ils retrouvent vraiment un lieu de repos. Le temps a passé. Je ne vais pas dire tout ce qui s'est passé après. La situation s'est inversée. Et puis, avec l'aide du Seigneur, l'armée de David a vaincu les rebelles. Absalom, son propre fils, qui a fait le coup d'État, est mort. David rentre à Jérusalem en vainqueur, acclamé par le peuple. Et c'est alors que Shimei, qui avait lancé des malédictions, au chapitre 19, donc encore trois chapitres plus tard, il s'est passé beaucoup d'événements. Il change totalement de visage. Il fait une volte-face à 180 degrés. Il court à la rencontre de David. Mais il ne vient pas seul. Parce que il a peur de mourir. Donc, il est le chef. Il est un des chefs de tous ces Benjamites de la tribu. Alors, il ramène 1000 hommes avec lui. Pourquoi ? Pour montrer son influence. Son influence. Si tu me tues, tu mettras à dos toutes ces personnes qui sont avec moi. Donc il fait une politique en fait, une pression politique. Et puis 2 Samuel chapitre 19, versets 19 et 20, que mon Seigneur ne me tient pas compte de mon iniquité. Ne garde pas cela dans ton cœur. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Moi, j'ai péché. Je me repens. Et voici, je suis descendu aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon Seigneur. Waouh! Quelle hypocrisie! N'est-ce pas? J'ai l'impression que dans son cœur, il n'est pas du tout, il n'a pas encore réglé sa haine contre David. Mais contre la puissance, une grande autorité, il ne peut pas maintenant dire. Il a peur pour sa vie aussi. Il est en train de dire, c'est une vieille histoire. C'est du passé. Je te demande pardon. Est-ce qu'on arrive à pardonner quand les gens viennent en disant que... Enfin, on voit vraiment dans son cœur qu'il ne demande pas pardon, mais il dit ça juste pour passer, quoi. C'est pas comme ça qu'on va avoir une guérison intérieure, n'est-ce pas? Il faut un suivi vraiment personnel aussi. Et donc, là, il est en train de dire, oui, c'est du passé, oublions tout ça. Et il se vante même d'être le premier de toutes les tribus d'Israël à venir l'accueillir. Je suis le premier, n'est-ce pas? Alors, le serviteur de David, outré par cette duplicité, il n'est pas dupe. Abishai, qui, au départ, voulait décapiter ce Shimei, il dit encore, à nouveau, il s'emporte à nouveau, il dit, Shimei, ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? C'est la réaction logique, n'est-ce pas? Comment laisser vivre un tel opportuniste pour Abishai, son général en chef? Mais la pensée de David est bien plus haute, différente. Et là, il dit au verset 22-23, « Qu'ai-je à faire avec vos filles de Sérubia pour que vous soyez aujourd'hui mes adversaires? Ferait-on mourir aujourd'hui quelqu'un en Israël? Ne sais-je pas que je règne aujourd'hui sur Israël ?» Vous savez, Joab et Abishai étaient des généraux loyaux envers David, mais ils étaient trop impulsifs, colériques. Et là, David est en train de les réprimander en disant que « Mais tu ne vois pas plus loin, ce jour n'est pas un jour de vengeance. Ce jour est un jour de restauration du royaume de Dieu. » Et si, en le tuant, ce Benjamite, hein, ce Shimei, il risquerait de briser l'unité déjà fragilisée. Alors, en tout cas, il veut unifier le peuple. Il veut restaurer la gloire de Dieu. Le plus important n'est pas son ego personnel, sa vengeance personnelle, mais c'est la gloire de Dieu. La restauration de tout son peuple. Et il dit, je suis le roi d'Israël. Je ne suis pas le roi de Juda seulement, mais c'est toutes les tribus, sur toutes les tribus. Il est en train de dire, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Dans son cœur intérieur, il est en train de se dire, de toute façon, Dieu fera ce qui est le juste. Même si moi, je n'agis pas, c'est Dieu qui agira un jour. Je dirais que en luttant contre des personnes sans valeur, vous risquez de perdre en vue de la grande vision que Dieu a pour vous. Rappelez-vous que qui vous êtes, c'est-à-dire des enfants de Dieu, rachetés au prix du sang du Christ, vous êtes aussi des rois, des prêtres, et ne vous battez pas contre des hyènes. Vous savez, les hyènes, ça tourne comme ça, hein? Et quand le lion est en faiblesse, dans la faiblesse, c'est à ce moment-là qu'il attaque, en plusieurs en plus, hein? Il n'est pas tout seul. Il y a des gens comme ça, qui vous attaquent, quand vous êtes dans la faiblesse. Là, David est en train de réagir, bon, oui, ça ne vaut pas la peine de réagir. Et il veut triompher le mal par le bien. Par le bien. Romains 12, 21, le texte nous exhorte en disant que « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et dans 1 Pierre 3, 9, il est dit aussi « Ne rendez pas le mal pour le mal. » Parce que la vengeance crée un cycle sans fin qui détruit tout le monde. Regardez ce qui se passe entre Israël et la Palestine, ou encore vis-à-vis des pays arabes. C'est du ping-pong. Tu m'as blessé, je te blesse. Œil pour œil, dent pour dent. Dans ce cas-là, ce sera un cycle sans fin. Il faut qu'un jour, quelqu'un termine ce cycle. Et David a choisi de terminer ce cycle. Et puis, dans 1 Pierre 2, 3, il dit aussi, « Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. » Est-ce que vous arrivez à le faire? Waouh! Moi, j'ai du mal. J'ai du mal, Seigneur, mais voilà. Il faut essayer quand même. Parce que, il faut savoir que la haine est la nourriture préférée du diable. si vous répondez par la bénédiction, le Seigneur change votre cœur. Et la haine disparaît. Vous affamez le malin qui veut nourrir de votre haine. Et en agissant ainsi, en bénissant les gens, vous recevrez aussi l'héritage spirituel des grands hommes de la foi. Et puis d'ailleurs, vous pouvez bénir, mais si eux, ils ne méritent pas de recevoir cette bénédiction, ça reviendra vers vous, d'après la parole de Dieu, et même à votre génération. Donc c'est bien de bénir, et puis si ça, ils ne méritent pas, ça reviendra vers moi. Hein? N'est-ce pas? Donc, en bénissant les gens, vous bénissez aussi vous-même. Aujourd'hui, si vous portez des blessures, pardon, aujourd'hui, si vous portez des blessures ou des cicatrices causées par des chimères dans votre vie, laissez ce matin couler le sang de Jésus pour pouvoir les laver. Déclarez devant le Seigneur, devant toutes ces personnes, toutes ces blessures, que vous êtes des enfants de Dieu et que votre nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Je ne suis pas qui se battent avec des personnes sans importance, des hyènes. Je suis ceux qui révèlent la gloire de Dieu, comme Pierre l'a été. Voilà. Et puis, oui, parfois, il y a des Abishai, hein, le général, qui sort de votre cœur. Ah, j'aimerais couper sa tête, n'est-ce pas? Mais ne laissez pas votre colère ou voilà, régnez dans votre cœur. Gardez le cap. David a fixé son regard vers le Seigneur. Il connaissait sa destination et il a marché sans broncher. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons regarder vers Jésus qui nous apporte la consolation, la force et aussi une guérison intérieure. Seul Dieu peut nous guérir et nous donner la force pour résister et même pour bénir nos ennemis. Demandez-vous, qu'est-ce que cette critique, même injuste, peut m'apprendre sur ma capacité à rester calme et humble? Il devrait avoir sûrement peut-être une part de vérité dans ses propos. Il doit y avoir même ne serait-ce que 5%, 10% de vérité. Ça veut dire que je dois aussi travailler moi-même. Vous savez, nous, on n'est pas meilleur que les autres. On se sent toujours supérieur, mais non. Non. Parfois, on est tellement orgueilleux. Vous savez, pendant la semaine, j'étais avec plein de serviteurs. Et puis, une dame me disait... Enfin, une dame, hein, une pasteur. Hein, une pasteur disait... Ah, vous savez, je ne voulais pas venir dans cette rencontre parce qu'il y a un tel pasteur qui vient ici. Je sais que lui, il est super intello, érudit. À chaque fois il vient, il va enseigner les autres. Il va apprendre, il va enseigner aux autres. Je le trouvais trop orgueilleux. Donc, tant qu'il venait, moi, je... Et puis, finalement, je l'ai découvert. Je l'ai découvert. Je vois vraiment bien qu'il est aussi serviteur de Dieu. Qui suis-je pour le critiquer? Et il a pleuré à fond. Et ça m'avait touché parce que je me suis dit, mais moi aussi, en fait, au fond, à l'intérieur de mon cœur, il y a un petit orgueil en disant, ah, moi je suis un bon pasteur. Je suis bien, moi, hein, n'est-ce pas? Et je suis apprécié. En plus, voilà, je suis un homme de paix, j'apporte... La réconciliation, j'anime bien mon ministère, donc du coup, voilà, je suis bien, quoi. Mais au fond de cette autosatisfaction, il y avait quand même un petit orgueil personnel que le Seigneur m'a montré. Oui. Dans différentes choses, en tout cas, qu'on puisse voir la perspective de Dieu. Quand le Seigneur nous reprend, à travers la parole des personnes, des paroles injustes, mais aussi, il peut y avoir une part de vérité, qu'on puisse vraiment prendre cela et s'humilier davantage devant le Seigneur. Bénir les autres aussi, etc. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière.